antes murmurantes.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nico.
Bonjour Rita.
Sur les ondes de Radio Larzac International.
Rêverie brésilienne.
Devaneios brasileiros. Petit rappel pour nous mettre en bouche la suite du programme.
1492.
Christophe Colomb, pensant arriver aux Indes, accoste avec ses embarcations la Pinta, la Niña et la Santa Maria sur les côtes de l'île de Guanahani, actuel San Salvador, Caraïbes, ouvrant au monde européen des nouveaux terrains de découvertes et de conquêtes.
Le 7 juin 1494,
dans la ville de Tordesillas, en Espagne, les rois d'Espagne et du Portugal signent un traité, dénommé alors traité de Tordesillas, divisant les eaux et les possibles terres de ce nouveau monde entre les deux couronnes.
Le 22 avril 1500,
le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral amarre ses 13 caravelles sur la côte actuellement brésilienne et, croyant voir une montagne, dénomme cet endroit le Mont Pascual, car il est Pâques. Sans se soucier de la présence de ses habitants, Pedro Álvares Cabral y plante le drapeau portugais, déclarant ainsi ses terres des possessions du royaume portugais, alors que les rois du Portugal eux-mêmes sont plutôt intéressés et impliqués dans les explorations des navigateurs partis vers l'Inde. En partant, sans savoir s'il s'agissait d'une île ou d'un continent, il a changé le nom par « île de Veracruz ».
L'île de la vraie croix.
Grand continent qui s'appellera plus tard
Brésil.
Puis se suivent les arrivées des aventuriers, des chercheurs d'or et de richesses, des voleurs de toutes espèces, et j'en passe, jusqu'à ce 29 mars 1549, lorsque les premiers jésuites accostent sur les terres de Bahia. Pilote, transporte-nous à ces années, à ces lieux. Alors que nous, fermant les yeux, nous nous laisserons emporter par cette passionnante aventure.
Bonjour aux auditeurs de Radio Larzac. Je vous remercie pour l'invitation et de pouvoir parler de mon travail depuis un lieu si distant d'une île du sud du Brésil.
Je vous signale que le professeur Marcus Oller vit actuellement à Florianópolis, une île du sud du Brésil, d'où il répondra à mes questions.
Soa muito exótico isso, né?
Hey, 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 hey
pourquoi les jésuites sont venus s'implanter au Brésil.
Le premier père jésuite est arrivé au Brésil en 1549. Le père Manuel da Nóbrega fut aussi le premier jésuite dans les Amériques et non seulement au Brésil. Un des objectifs des jésuites, c'était de diffuser, de disséminer la parole du Christ depuis le début de la création de la Compagnie de Jésus. Ignacio de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, avant même de fonder cette compagnie, se consacrait à cet objectif.
Petite parenthèse. Dans votre texte, je lis « Inigo López de Loyola est né dans la province de Guipuscoa, un territoire basque. Les données sur son âge sont contradictoires, mais on pense qu'il est né en 1491. » De famille noble, il a reçu une formation chevaleresque appropriée à sa classe sociale. En de nombreux aspects de sa vie, on aperçoit les éléments que plus tard caractériseront l'idéal des jésuites, l'altruisme, la catéchisation et leur dévouement à l'étude et à l'érudition.
Et cette époque, meados du siècle XVI, era a época dos descobrimentos.
À cette époque, au milieu du XVIe siècle, c'était le temps des expéditions. Il existait plusieurs nouvelles terres récemment découvertes et autres peuples qui n'étaient pas encore chrétiens. La catéchisation passa pour être l'objectif non seulement de la Compagnie de Jésus, mais aussi d'autres ordres. Disséminer la parole du Christ aux peuples non chrétiens.
Padre Simão de Vasconcelos, qui era português.
Parmi l'un des suiveurs d'Ignacio de Loyola, le père Simão de Vasconcelos, un Portugais, partit d'Espagne vers le Portugal et réussit à convaincre la couronne portugaise qu'il serait intéressant que les jésuites s'implantassent au Brésil. Pour la couronne, c'était également intéressant, car c'était une forme d'occupation du pays. Il fallait peupler la colonie le plus rapidement possible pour éviter les invasions. Une compatibilité d'intérêts compensait une forme d'agression. Pour la couronne, il était intéressant que les jésuites s'installent sur place, et pour les jésuites, c'était un moyen d'accomplir leur objectif, amener la parole du Christ aux habitants des Amériques portugaises.
Thank you.
Quand ils sont arrivés au Brésil, les jésuites ont créé un système d'enseignement. Comment se caractérisait cet enseignement et à qui s'adressait cet enseignement?
Initialement, l'enseignement était adressé aux Indiens dans leur communauté. Cependant, la population portugaise du Brésil s'est rapidement aperçue que les jésuites représentaient la seule possibilité d'enseignement pour tous, car la cour portugaise n'avait aucun intérêt à établir des écoles au Brésil. Ici, c'était une colonie. Les seuls intérêts étaient exploratoires pour la colonie. Petit à petit, ces écoles jésuites commencèrent à se tourner vers la population portugaise dans les villes, à tel point qu'au XVIIIe siècle, les jésuites avaient des écoles presque dans toutes les villes de l'Amérique portugaise. Tout ce qu'était le Brésil à l'époque destiné exclusivement à la population portugaise.
Exclusivement? Alors, ils ne recevaient pas les Indiens dans ces écoles?
Os índios ficavam nas aldeias. Existem até alguns relatos de alguns índios inicialmente, mas no século XVIII, no momento em que eles foram expulsos...
Un enseignement réduit restait dans les communautés jusqu'au XVIIIe siècle, quand les jésuites furent expulsés du Brésil. Les jésuites ont une importance énorme lorsque nous parlons de l'histoire de l'éducation au Brésil. Dans la période coloniale, pratiquement les seuls établissements d'enseignement au Brésil étaient ceux de la Compagnie de Jésus. Plusieurs récits disent qu'après l'expulsion des jésuites, en 1759, toute l'éducation au Brésil se vit à minima, et ce n'est qu'au début du XIXe siècle, avec l'arrivée de la famille réale au Brésil, que d'autres écoles furent fondées.
Donc, só depois, no início do século XIX, com a vinda da família real pro Brasil, é que outras escolas vão ser fundadas.
Alors, pendant presque un siècle, l'éducation au Brésil fut pratiquement nulle.
Exactement. C'est pourquoi les jésuites restent la clé de voûte de toute l'histoire de l'éducation au Brésil. En résumé, initialement, les écoles étaient consacrées aux Indiens. Petit à petit, les jésuites ont commencé à se retourner vers la population portugaise, la population urbaine, et au XVIIIe siècle, pratiquement toutes les écoles étaient urbaines, donc seulement adressées à la population portugaise. C'était des écoles énormes, avec une formation très importante, acceptée. Par exemple, pour entrer à une université au Portugal, plusieurs bâtiments sont d'ailleurs encore préservés aujourd'hui.
L'enseignement des jésuites au Brésil eut une acceptation ou reconnaissance au Portugal?
L'élève qui sortait d'une école des jésuites au Brésil pouvait entrer à l'université de Coimbra, au Portugal, par exemple.
Et qu'enseignaient les jésuites?
Le programme comportait la rhétorique, les principes basiques des nombres, des mathématiques et, à moindre échelle, de la musique.
Princípios básicos de números, de matemática.
Sim.
C'était selon la répartition ancienne de l'enseignement, à savoir les disciplines du trivium et du quadrivium.
Petite parenthèse. Même au XVIIIe siècle, les jésuites utilisaient les principes de l'enseignement du Moyen-Âge. Le trivium, qui groupait la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et le quadrivium, qui comprenait généralement l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Ces deux cycles successifs remontaient à la tradition platonicienne qui avait superposé l'enseignement des mathématiques à l'enseignement des lettres classiques. Calcul, l'arithmétique. J'ai vu dans votre texte, votre thèse, qu'il y avait également la philosophie. Toutes ces matières faisaient-elles partie du programme de l'enseignement pour les Indiens?
Non. Pour les Indiens, eram escolas mais simples. É muito difícil saber exatamente qual era esse ensino dos Índios.
Non, pour les Indiens, c'était un enseignement plus simple. Il est cependant très difficile de savoir exactement ce qu'ils enseignaient aux Indiens, car les documents dont nous disposons sont récents et présentent le programme des écoles urbaines. Les jésuites apprenaient aux Indiens à lire et à écrire, à jouer des instruments de musique, à chanter lors des offices religieux.
À lire et à écrire. a tocar instrumentos, a cantar nos ofícios, eram ensinos básicos, uhum. Mas nós não temos informação detalhada sobre como era esse ensino, o que era ensinado.
E quel était le rôle de la musique dans cet enseignement?
Logo que eles chegaram aqui, que o padre Nóbrega chegou no Brasil, ele percebeu essa possibilidade do uso como, da música como uma ferramenta de contato com os índios.
Dès que le père da Nóbrega est arrivé, il a perçu la possibilité de l'usage de la musique comme un outil de contact avec les Indiens. Ce détail est très curieux, à savoir que la musique est une possibilité de dépasser les contacts entre barrières culturelles. Par exemple, la langue est une barrière plus compliquée à dépasser. C'est dans cette optique que les jésuites ont utilisé la musique. Voyant l'intérêt que les Indiens portaient aux instruments et aux chansons, qui, par ailleurs, faisaient partie de leur culture, ils ont utilisé les chansons et les instruments des Indiens et leur langue pour faire passer des textes chrétiens. C'était un outil systématique dans le processus d'éducation, tout comme le théâtre.
Uma ferramenta eficiente no processo de catequese. Então, usar canções indígenas, a língua indígena, com textos cristãos.
La musique était-elle enseignée seulement aux enfants ou aussi aux adultes? Les Indiens adultes étaient-ils reçus dans ces communautés?
No início, o objetivo dos jesuítas eram os meninos índios, as
Sim.
crianças.
Sim.
Tanto que os adultos eles eram um pouco arredios, e eles mesmos diziam que uma criança é uma página em branco.
Au début, l'objectif des jésuites, c'était les enfants. Les adultes étaient un peu timides, plus farouches. Les jésuites disaient qu'un enfant était une page blanche. La preuve, c'est qu'une des premières choses qu'a faites le père Nóbrega, fut de demander à Lisbonne un groupe d'enfants d'une école d'orphelins des jésuites de venir au Brésil. Des enfants qui jouaient des instruments et qui chantaient, ce qui était une forme plus rapide pour arriver aux adultes via les enfants. C'est ce qui apparaît plus fréquemment dans les récits. Plus tard, au XVIe ou au XVIIe siècle, on trouve des récits qui semblent confirmer ce procédé de catéchisation d'indiens adultes.
E é o que aparece mais frequentemente nos relatos. Mas mais tarde, século XVI, XVII, por exemplo, já se tem relatos de índios adultos tocando instrumentos, que era uma forma também de chegar a índios ainda arredios, ainda não catequizados. Jesus Salvador Seculi, Verbum Patri.
La musique enseignée était-elle seulement religieuse ou aussi profane?
É uma mistura das duas, na verdade. Procedimento muito comum dos jesuítas era...
C'est un mélange des deux. En fait, une procédure très utilisée par les jésuites était d'utiliser des chansons profanes, connues, non seulement européennes, espagnoles ou portugaises, comme aussi des mélodies indiennes avec des textes sacrés. Cette façon de procéder en musique est appelée contrafacta, qui est aussi beaucoup utilisée dans l'église protestante luthérienne. Beaucoup des morceaux du répertoire sacré de l'église protestante sont des chansons profanes avec des textes changés, adaptés, sacrés. Depuis Luther, c'était une démarche courante, prendre une mélodie déjà connue, une mélodie avec un texte profane, et adapter dessus un texte sacré.
Então você pegar uma melodia que já é conhecida, uma melodia com um texto profano, e adaptar um texto sacro a ela.
Ce sujet m'intéresse particulièrement, car écoutant le répertoire musical d'Europe du XVIe siècle, je me suis amusée à l'écoute des Folies, originaire du Portugal, très diffusé dans la péninsule ibérique, qui était des musiques païennes, transformées ensuite au Portugal par des textes religieux. Au Brésil, j'ai rencontré de nombreuses références aux folies au nord-est, par exemple, et toutes avec une utilisation religieuse et non profane.
C'est une démarche très connue dans l'histoire, cette adaptation d'un élément sacré à un élément profane. C'est efficace et ça fonctionne très bien. C'est une façon très rapide de s'approprier une population laïque hors de l'Église. On voit de nombreux exemples de cet usage.
Le terme « meninos » utilisé dans votre thèse me provoque un doute, car « meninos » peut comprendre aussi bien « garçon » que « garçons » et « filles ». En français, les termes sont différents. « Enfant » englobe « garçon » et « filles ». Mais en portugais, cette différenciation n'existe pas. Or, vous utilisez toujours et seulement « meninos », c'est-à-dire le mot masculin. Et les filles indiennes, étaient-elles aussi intégrées à cette éducation?
Rita, cette question est la question que je me suis aussi posée. Ceci m'a beaucoup interpellée. Qu'en est-il?
Nico, la réponse à cette question, si nos auditeurs veulent la connaître, ils doivent attendre le mardi 23 décembre à 19h ou les samedis 27 décembre à 15h. Alors tout leur sera dévoilé.
Mais d'ici là, il n'y aura pas de rêverie brésilienne.
Bien sûr que si, le mardi 9 décembre à 19h. Mais ce sera une de nos émissions mensuelles de la série Tout à l'honneur. Et nous recevrons Christian Bermejo à la médiathèque de Millau. N'oubliez pas, ne ratez pas.
Rendez-vous donc mardi 9 décembre à 19h et en rediffusion le samedi 13 décembre à 15h.
Et évidemment, vous pouvez écouter toutes les émissions précédentes entrant dans les sites de Radio Larzac, ensuite dans Son, ensuite dans Émissions et Rêverie brésilienne, rien que pour vous. Notre émission d'aujourd'hui fut colorée par le fond musical dans l'ordre suivant. Première et dernière musique, couplet de folie, 1701.
De Marin Marais, direction Jordi Saval.
Ensuite, Tukutri Yoremuru Katou, au chant du colibri.
Par des Indiens de l'Amazonie brésilienne.
Folie, Rodrigo Martinez, 1490.
Direction Jordi Saval.
Tupaz e Maria, chant sacré des Indiens Guarani, Chiquitos e Mochos, Canite Plaudite.
Par l'ensemble Louis Berger.
De l'Altiplano à l'Amazonie. Lima, La Plata, Mission Jésuite. Hola, ala, qui viene in ritana, de Juan de Araujo.
Interprétation de l'ensemble Elima, direction Gabriel Garrido.
Du même disque de l'Altiplano, Salga el Torillo, de Diego J. de Salazar.
Lui aussi interprété par l'ensemble Elima, et sous la direction de Gabriel Garrido.
In manus tuas de Thomas Stalis, environ 1559.
Par l'ensemble style antico.
Miserere mi domini, environ 1575, de William Baird.
Par l'ensemble style antico aussi.
Au revoir Nico et merci pour ta participation spéciale aujourd'hui et la technique bien sûr.
Pas de problème Rita, je suis là pour ça.
Restez sur les ondes de Radio Larzac car...
Si vous nous écoutez le mardi, vous pourrez poursuivre la soirée en musique.
Et si vous nous écoutez les samedis, vous pouvez rester en compagnie de H1000.